Brothers and sisters,
frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la veillée pour les jeunes adultes du département d'éducation de l'Église. Elle est diffusée depuis le Mayotte Center sur le campus de l'Université Brigham Young à Provo, en Utah. Cette veillée est traduite dans de nombreuses langues pour les jeunes adultes du monde entier. Je suis Richard Heaton, président du 19e pieu de Provo. Nous souhaitons la bienvenue à D. Todd Christofferson du Collège des Douze Apôtres et nous sommes reconnaissants que Sir Christofferson l'accompagne ce soir. Dans un moment, nous aurons la présentation de Frère Christofferson qui est l'orateur de ce soir. Nous sommes reconnaissants de la présence d'autres autorités générales et 70 d'interrégions, de membres du Bureau d'éducation de l'Église et de responsables de l'Université Brigham Young. En outre, nous avons le plaisir d'avoir avec nous sur l'estrade des administrateurs du DEE et des séminaires et instituts de religion, ainsi que des présidents de pieux, de jeunes adultes seuls de Provo et d'étudiants mariés avec leurs femmes. Nous vous rappelons que le dimanche 2 novembre 2014, Donald L. Alstrom, de la présidence des 70, sera l'orateur de la veillée du DEE. Pour commencer cette veillée, le chœur et l'assemblée chanteront le cantique Hymn of Praise. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous dans l'assistance Sir Robin Johnson de la paroisse des jeunes adultes seuls de Colob, qui dirigera la musique, et Sherry Peterson de la deuxième paroisse de Spring Creek, qui nous accompagnera au piano. Après le cantique, Tracy Bounds de la paroisse des jeunes adultes seuls de Spring Creek fera la prière d'ouverture.
Notre Père céleste,
Nous te sommes très reconnaissants pour toutes les bénédictions que tu nous accordes. Nous te remercions, Père Céleste, d'être réunis à cette veillée ce soir, en présence de ton apôtre, D. Todd Christofferson. Père Céleste, nous te demandons la bénédiction d'avoir un cœur ouvert pour que nous puissions ressentir ton esprit ce soir et que nous ressentions ta présence pendant que nous écouterons les paroles de Frère Christofferson, les paroles que tu veux qu'il nous dise ce soir.
We humbly bow before thee.
Père Céleste, nous nous inclinons devant toi avec gratitude pour tout ce que tu nous as donné, pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Nous t'aimons beaucoup, Père Céleste, et nous te remercions pour cette Église. Nous te remercions pour l'Évangile de Jésus-Christ. Nous te remercions pour ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, et pour son sacrifice pour nous, pour son amour et pour son exemple. Père Céleste, les mots nous manquent pour exprimer ce que nous ressentons pour toi et notre amour pour toi. Nous te remercions, Père Céleste, pour ta divine providence, pour tout ce que tu fais pour nous et surtout pour ton amour que nous ressentons continuellement chaque jour. Nous te demandons de nous accorder ton amour à cet instant, tandis que nous nous réunissons humblement pour être nourris de ta parole et pour ressentir ta présence. Nous te demandons de nous permettre de ressentir ta présence, Père Céleste. Nous t'aimons beaucoup, Père Céleste. Nous te remercions beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de nous avoir donné ton Fils. Et nous disons cela avec une humble gratitude, Père Céleste. Et nous te louons ce soir, au nom de ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Amen.
Ce soir, nous avons avec nous un chœur combiné des instituts de religion de la vallée de Salt Lake qui va chanter « Be still, my soul, va, ne crains pas ». Ils sont dirigés par Al W. Romwell, Institut de religion de Salt Lake University, et accompagnés au piano par Sean Merrill et Sarah Anderson au violoncelle. Après le numéro musical, nous serons heureux d'entendre un discours de Frère Christofferson. Après le discours de Frère Christofferson, le chœur interprétera « Dieu soit avec toi jusqu'au revoir ». Il sera dirigé par Frère Romwell et accompagné à l'orgue par Frère Merrill. La prière de clôture sera faite par José Arroyo, de la première paroisse des jeunes adultes seuls de la ville de Provo. J'ai l'honneur de vous présenter notre orateur de ce soir. Frère Christofferson a été appelé au Collège des Douze Apôtres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours le 5 avril 2008. Au moment de son appel, il servait dans la présidence des 70. Durant son mandat à la présidence des 70, Frère Christofferson avait la responsabilité de superviser les interrégions de l'Église de l'Ouest, de l'Amérique du Nord, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il a aussi œuvré comme directeur exécutif du département de l'histoire familiale de l'Église. Précédemment, il était président de l'interrégion du Sud du Mexique et résidait à Mexico. Avant d'être appelé comme autorité générale à plein temps pour l'Église, Frère Christofferson était conseiller général associé de Nations Bank Corporation, maintenant Bank of America, à Charlotte, en Caroline du Nord. Auparavant, il avait été président et conseiller juridique général de la Commerce Union Bank du Tennessee à Nashville, où il a aussi été actif dans le milieu des affaires, de la collectivité et dans des organisations interreligieuses. De 1975 à 1980, Frère Christofferson a pratiqué le droit à Washington, D.C., après avoir travaillé comme légiste avec le juge de district John G. Sirica de 1972 à 1974. Né à Pleasant Grove en Utah, il a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires dans le New Jersey Il a obtenu une licence de l'Université de Brigham Young, où il a bénéficié d'une bourse Edwin S. Hinckley, une bourse au mérite, et a servi comme vice-président du corps étudiant universitaire. Il a reçu son diplôme d'avocat de l'Université de Duke. Dans l'Église, il a notamment eu des appels de représentants régionaux, président de pieu et évêque. Jeune homme, il a été missionnaire en Argentine. Frère Christopherson et sa femme Catherine Jacob Christopherson ont 5 enfants. Le chœur va maintenant interpréter « Va, ne crains pas ».
Thank you very much.
Merci beaucoup pour ce chœur combiné et pour une si belle interprétation. Ce cantique a toujours été un de mes préférés, particulièrement les mots « Les vents et flots se rappellent la voix de Dieu qui les a maîtrisés ». Je suis reconnaissant pour les présidents de pieu et leurs épouses et les autres dirigeants qui sont ici avec nous, pour les officiers du système d'éducation de l'Église et des séminaires et instituts. Leur présence ici ce soir montre le soutien, l'amour et l'intérêt qu'ils vous portent et le souci qu'ils ont de votre bien-être. Lorsque Jésus et ses apôtres étaient ensemble à Césarée de Philippe, il leur demanda « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre, avec éloquence et puissance, répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Je frissonne à la lecture de ces mots. Je frissonne lorsque je les prononce. Cependant, peu de temps après ce moment sacré, Jésus parla à ses apôtres de sa mort prochaine et de sa résurrection. Et Pierre le contesta. Cela valut à Pierre le reproche sévère de ne pas être en phase et que ses pensées n'étaient pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Puis Jésus, redoublant d'amour pour celui qu'il venait de réprimander, expliqua gentiment à Pierre et à ses frères comment se charger de leur croix et renoncer à leur propre vie pour trouver le chemin d'une vie abondante et éternelle, lui-même en étant l'exemple parfait. Regardons la représentation de cet événement dans l'une des vidéos sur la Bible produite par l'Église.
Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et soit mis à mort, et qu'il ressuscite le troisième jour.
À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas.
Arrière de moi, Satan, tu m'es en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres.
Je voudrais vous parler de la déclaration qui peut paraître paradoxale que le Seigneur a faite quand il a dit « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera ». Ceci enseigne une doctrine puissante et profonde qu'il nous faut comprendre et vivre. Un professeur a donné cette explication pleine de sens. Tout comme les cieux sont plus hauts que la terre, ce que Dieu fait pour vous dans votre vie est bien plus grand que toute histoire, que toutes les histoires de votre vie. Sa vie est bien plus grande que vos plans, que vos buts ou que vos peurs. Pour sauver votre vie, Vous devez oublier votre histoire et, minute par minute, jour après jour, redonner votre vie à Dieu. Plus j'y pense, plus je suis étonné de voir comment Jésus a constamment donné sa vie pour le Père et comment il a perdu sa vie en faisant la volonté du Père, dans sa vie et dans sa mort, de façon parfaite. C'est précisément l'attitude et l'approche inverse qu'a démontré Satan et qu'a adopté le monde aujourd'hui. Au cours du conseil dans la vie prémortelle, Jésus, qui s'est porté volontaire pour être le Sauveur dans le plan divin de notre Père, a dit « Père, que ta volonté soit faite et que la gloire t'appartienne à jamais ». Lucifer, au contraire, déclara « Voici, envoie-moi ». Je serai ton fils, et je rachèterai toute l'humanité, de sorte que pas une seule âme ne sera perdue, et je le ferai certainement. C'est pourquoi donne-moi ton honneur. Le commandement que nous donne le Christ de le suivre est en fait le commandement de rejeter une fois de plus le modèle satanique, et de perdre notre vie ou notre histoire, comme l'explique Frère Miller, afin de trouver la vraie vie, la vie réelle, à savoir le royaume céleste que Dieu a prévu pour chacun de nous. Cette vie nous permettra de bénir les personnes qui nous entourent et fera de nous des saints. À cause de notre vision présente et limitée des choses, nous ne pouvons pas comprendre la portée de cette vie. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. J'aimerais connaître un peu plus de cette conversation que Jésus a eue avec ses disciples. Cela nous aiderait d'avoir un peu plus d'explications sur ce que signifie vraiment dans la pratique de perdre sa vie à cause de lui et ainsi de la trouver. Tandis que je médite sur la signification de ces paroles, je réalise que les commentaires du Sauveur, avant et après sa déclaration, sont un guide précieux. Voyons ensemble trois de ces commentaires. Qu'il renonce à lui-même et se charge de sa croix chaque jour. Ce sont les mots prononcés par le Seigneur juste avant qu'il les prononce. Comme on peut lire dans les évangiles synoptiques, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Luc ajoute le mot « chaque jour », qu'il se charge chaque jour de sa croix. La traduction de Joseph Smith dans « Joseph Smith Matthieu » élargit un peu plus la définition de ce que le Seigneur veut dire en disant de se charger de sa croix. Pour qu'un homme se charge de sa croix, il doit se refuser toute impiété et toute convoitise profane et garder mes commandements. Ce commandement est en accord avec la déclaration de Jacques. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. C'est une vie quotidienne à chercher à éviter tout ce qui est impur, tout en agissant en accord avec les deux grands commandements, aimer Dieu et aimer notre prochain, sur lesquels reposent tous les autres commandements. Ainsi, un des éléments de perdre notre vie en faveur de la plus grande vie que le Seigneur a prévue pour nous consiste à se charger de notre croix jour après jour. Quiconque, c'est la deuxième déclaration du Seigneur, elle suggère que trouver notre vie en la perdant à cause de lui et de l'Évangile implique un désir de vivre au grand jour notre vie de disciple. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père, avec les saints anges. Ailleurs, dans Matthieu, nous pouvons lire une déclaration similaire. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Une autre façon évidente de comprendre comment perdre votre vie en confessant le Christ, c'est de la perdre littéralement, physiquement, en soutenant et en défendant nos croyances. Nous nous sommes habitués à croire que cette exigence extrême faisait partie des histoires que nous avons pu lire sur les martyrs du passé, qui incluent également les premiers apôtres. Cependant, nous voyons que ce qui était historique fait maintenant partie du présent. Les nouvelles d'Irak et de Syrie font part de centaines de chrétiens et d'autres minorités qui sont chassés de chez eux. ou bien tués par des groupes terroristes islamiques ces derniers mois. Les terroristes exigent que ces chrétiens se convertissent à l'islam ou abandonnent leur village ou meurent. Les chrétiens ne veulent pas renier celui qu'ils adorent. Ainsi, beaucoup se sont enfuis et beaucoup ont été tués. Il ne fait aucun doute que de telles âmes seront parmi celles que le Seigneur n'aura pas honte de confesser devant son Père au jour du jugement. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Mais si l'un d'entre nous se trouvait face à cette situation traumatisante de perdre littéralement sa vie pour la cause du Maître, j'ose espérer que nous saurions montrer la même foi et la même loyauté. Cependant, l'application la plus ordinaire et parfois la plus difficile des enseignements du Sauveur se constate dans nos actions quotidiennes. Cela concerne les paroles que nous prononçons et l'exemple que nous montrons. Notre vie devrait être une confession du Christ, et à l'aide de nos paroles, nous devrions témoigner de notre foi et de notre dévouement à sa cause. Et ce témoignage devrait être défendu vaillamment, en face du ridicule, de la discrimination ou de la diffamation dont nous pouvons faire l'objet de la part de ceux qui s'opposent à lui dans cette génération adultère et pécheresse. Lors d'une autre occasion, le Seigneur fit cette remarquable déclaration à propos de notre loyauté. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit n'est pas digne de moi. » Dire qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais plutôt l'épée, peut sembler à première vue une contradiction à toutes les Écritures qui font référence au Christ comme étant le prince de la paix, et à cette proclamation lors de sa naissance, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Et d'autres références bien connues comme « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix ». C'est vrai que le Christ est venu apporter la paix entre le croyant et Dieu, et la paix parmi les hommes. Pourtant, le résultat inévitable de la venue du Christ, c'est le conflit entre le Christ et l'Antéchrist, entre la lumière et les ténèbres, entre les enfants du Christ et les enfants du diable. Ce conflit peut avoir lieu au sein d'une même famille. Je suis persuadé que certains parmi vous qui suivez cette diffusion ce soir ont déjà fait l'expérience personnelle de ce que le Seigneur exprime dans ces versets. Vous avez peut-être été rejeté ou exclu par un père ou une mère ou des frères et sœurs quand vous avez accepté l'Évangile de Jésus-Christ et avez fait alliance avec lui. D'une façon ou d'une autre, votre amour plus fort pour le Christ vous a demandé de sacrifier des relations qui vous étaient chères, et vous avez versé beaucoup de larmes. Pourtant, grâce à votre amour intact, vous ne chancelez pas sous cette croix, et vous n'avez pas honte du Fils de Dieu. Il y a environ 3 ans, un membre de l'Église en Ohio a offert un livre de Mormon à un de ses amis Amish. Cet ami a commencé à lire le livre et n'a pas pu s'arrêter. Pendant 3 jours, il n'a eu aucun autre désir que de lire le livre de Mormon. Sa femme et lui se sont fait baptiser, et 7 mois plus tard, il y avait 3 couples Amish convertis et baptisés membres de l'Église. Leurs enfants se sont fait baptiser quelques mois plus tard. Ces 3 familles ont décidé de rester dans leur communauté et de continuer à vivre comme les Amish, bien que ne partageant plus les mêmes croyances religieuses. Cependant, du fait de leur baptême dans l'Église, ils ont été mis à l'écart par tous leurs voisins Amish. Mis à l'écart veut dire que personne dans la communauté Amish ne leur adressait la parole, ne voulait travailler avec eux ou avoir affaire avec eux en aucune façon. Cela ne concernait pas seulement leurs amis, mais également les membres de leur famille, frères, sœurs, parents et grands-parents. Au début, ces saints des derniers jours à Mich se sont sentis très seuls et isolés. Leurs enfants, qui avaient été aussi mis à l'écart, ont été exclus de leurs écoles à Mich à cause de leur baptême et de leur appartenance à l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Leurs enfants ont subi cette mise à l'écart de la part de leurs grands-parents, de leurs cousins et de proches voisins. Même les enfants les plus âgés de ces familles Amish converties, et qui, eux, n'avaient pas accepté l'Évangile, ne parlaient ni ne saluaient leurs parents. Ces familles ont dû se battre pour survivre aux conséquences sociales et économiques de cette mise à l'écart, mais elles y sont parvenues. Leur foi est restée forte. L'adversité et l'opposition subies par cette mise à l'écart leur a permis d'être constants et immuables. Un an après leur baptême, ces familles ont été scellées au temple, et elles continuent de se rendre fidèlement au temple chaque semaine. Elles ont trouvé de la force en faisant, en recevant et en respectant les alliances. Elles sont toutes pratiquantes dans l'Église et cherchent par tous les moyens à communiquer la lumière et la connaissance de l'Évangile à leurs familles et communautés par leurs actes de charité et de service. Oui, le prix à payer pour devenir membre de l'Église de Jésus-Christ peut être très élevé. Mais l'exhortation de préférer le Christ par-dessus tout, même aux membres de notre famille les plus chers, s'applique également aux personnes nées dans l'Alliance. Beaucoup d'entre nous sommes devenus membres de l'Église sans opposition, peut-être quand nous étions enfants. Le défi à relever est celui de rester fidèle au Sauveur et à son Église devant des beaux-parents, des frères et sœurs ou même nos enfants, dont le comportement, les croyances ou les choix font qu'il nous est impossible de choisir entre lui et eux. Ce n'est pas une question d'amour. Nous pouvons et devons nous aimer les uns les autres, comme Jésus nous aime. Comme il l'a dit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais le Seigneur nous rappelle, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Bien que l'amour familial soit toujours là, les relations peuvent prendre de la distance, et parfois, selon les circonstances, le soutien et la tolérance doivent être coupés au profit d'un amour plus grand. En réalité, la meilleure façon d'aider les personnes que nous aimons, la meilleure façon de les aimer, est de continuer à mettre le Sauveur en priorité dans notre vie. Si nous nous éloignons du Seigneur par compassion pour des êtres chers qui souffrent, alors nous perdons le seul moyen que nous avons de les aider. Cependant, si nous restons fermement ancrés dans la foi, nous sommes à même de recevoir et de prodiguer de l'aide divine. Si, ou devrais-je dire quand, le jour vient où un membre de notre famille a désespérément besoin de se tourner vers la seule source véritable et durable pour obtenir de l'aide, il saura qui s'en remettre pour le guider et le soutenir. Pendant ce temps, avec le Saint-Esprit pour nous guider, nous pouvons effectuer notre ministère et atténuer la douleur des mauvais choix et panser les plaies dans la mesure où nous y sommes autorisés. Sans cela, nous ne servons ni ceux que nous aimons, ni nous-mêmes. Le troisième élément de perdre notre vie pour la cause du Seigneur, que je voudrais mentionner, se trouve dans ces paroles. « Et quiconque perdra sa vie dans ce monde, la trouvera dans le monde à venir. » Par conséquent, délaissez le monde et sauvez votre âme. Car que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Comme il est dit dans la traduction inspirée de Joseph Smith, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il ne recevait pas celui que Dieu a ordonné? Et il perd son âme et il devient un naufragé. » Déclarer que délaisser le monde au profit de celui que Dieu a ordonné va à l'encontre des enseignements du monde d'aujourd'hui est un euphémisme. Les priorités et les intérêts dont nous sommes entourés, et qui sont parfois les nôtres, sont profondément égoïstes. Le besoin d'être reconnu, La demande constante que les droits soient respectés, y compris le droit supposé de ne jamais être offensé. Le désir ardent d'avoir de l'argent, des biens et du pouvoir. Le droit de mériter une vie de confort et de plaisir. Le but de minimiser les responsabilités et d'éviter tout sacrifice personnel au profit d'autrui. Juste pour en citer quelques-uns. Cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas chercher à réussir et même à exceller dans nos projets, y compris l'instruction et un travail honorable. Au début de l'année, Jed Rubenfeld et sa femme Amy Shua, qui sont professeurs de droit à l'université de Yale, ont publié un livre intitulé « The Triple Package », le forfait triple. Comment trois traits improbables expliquent la montée et la chute de groupes culturels en Amérique. Leur théorie est que certains groupes en Amérique se développent mieux que d'autres, basés sur trois traits culturels décrits dans ce livre, qui donnent à ces groupes un avantage. Chua et Rubenfeld ont identifié les Mormons, les Juifs, les Asiatiques, les immigrants d'Afrique de l'Ouest, les Amérindiens et les Cubains-Américains comme étant les groupes aux États-Unis aujourd'hui qui possèdent ces traits. En comparant ces groupes avec la société américaine dans des domaines comme le salaire, l'instruction, la direction d'entreprise, la réalisation professionnelle et d'autres paramètres, Chua et Rubenfeld disent « S'il y a un groupe aux États-Unis aujourd'hui qui se détache par une réussite conventionnelle, ce sont les Mormons. Alors que les protestants représentent 51% de la population aux États-Unis, les 5 à 6 millions de mormons n'en représentent que 1,7%. Et pourtant, un nombre impressionnant d'entre eux occupe des postes parmi les plus élevés dans des grandes compagnies américaines et dans la politique. » Fin de citation. Bien entendu, de telles réussites sont louables. Mais si nous voulons sauver notre âme, nous devons toujours nous souvenir qu'elles ne sont pas une fin en soi, mais un moyen d'atteindre un but plus élevé. Notre foi en Christ ne doit pas nous faire voir les réussites dans la politique, les affaires, l'instruction ou d'autres domaines comme quelque chose qui nous définit, mais comme quelque chose qui nous permet de servir Dieu et notre prochain, en commençant chez nous, puis en étendant ce service au monde. Notre développement personnel n'a de valeur que s'il contribue à nous faire ressembler au Christ. Lorsque nous évaluons notre réussite, nous reconnaissons la vérité profonde qui surpasse toutes les autres, que notre vie appartient à Dieu, notre Père céleste, et à Jésus-Christ, notre Rédempteur. La réussite signifie vivre en harmonie avec leur volonté. En opposition à la vie égocentrique, le président Spencer W. Kimball a simplement exprimé cette pensée. Le service donne plus de signification à cette vie et la rend plus heureuse, pendant que nous nous préparons à vivre dans un monde meilleur. Lorsque nous sommes engagés au service de nos semblables, non seulement nos actions leur apportent de l'aide, mais nous avons une autre perspective de notre propre problème. Lorsque nous nous préoccupons davantage des autres, il reste moins de temps pour nous préoccuper de nous-mêmes. Au cœur du miracle du service se trouve la promesse de Jésus, « Quand nous perdons nous-mêmes, nous nous trouvons. » Il continue en disant, « Non seulement nous nous trouvons en ceci que nous reconnaissons la direction divine dans notre vie, mais plus nous servons notre prochain de façon appropriée, plus il y a de substance pour notre âme. En servant autrui, nous acquérons plus de substance. » Il est en effet plus facile de nous trouver nous-mêmes, parce qu'il y a tellement plus à trouver. Je vais terminer en donnant quelques exemples de ce que signifie, au quotidien, perdre sa vie pour le Christ et son Évangile, et ainsi trouver finalement la vie éternelle. Henry B. Eyring était le président de Riggs College, maintenant appelé l'Université Brigham Young d'Idaho, en juin 1976, lorsque le barrage de Teton Dam, qui se trouve près de Rexburg, a cédé. 300 millions de mètres cubes d'eau ont déferlé en direction de Rexburg à la vitesse d'environ 65 km à l'heure balayant tout sur leur chemin. Beaucoup des habitants de la région ont fait preuve d'héroïsme, en portant secours aux personnes en difficulté, alors qu'eux-mêmes venaient de perdre leur maison et tous leurs biens. Cependant, un petit nombre ont abandonné leurs êtres chers et les ont laissés se débrouiller tout seuls. Frère Iring, qui lui-même apporta son aide au groupe de secours, en utilisant toutes les ressources de l'université, voulut comprendre ce qui avait fait la différence entre l'héroïsme de certains et la lâcheté de certains autres. Il demanda qu'une étude simple, mais néanmoins significative, soit faite. Plus tard, il raconta à un groupe d'élèves qu'il n'avait trouvé qu'une seule raison. Ceux qui s'étaient comportés en héros étaient ceux qui avaient toujours tenu leurs promesses dans les petites choses du quotidien. La promesse d'aider à ranger l'église après une activité, ou d'aller aider un voisin un samedi après-midi. Ceux qui avaient abandonné leur famille dans ce moment tragique étaient ceux qui s'étaient souvent soustraits à leurs responsabilités, alors qu'elles n'étaient pas vraiment difficiles. Ils avaient l'habitude de ne pas tenir leurs promesses, même si le sacrifice demandé n'était pas si dur, et que faire ce qu'ils avaient promis de faire aurait été facile. Et quand le prix à payer fut élevé, ils ne purent le payer. Sœur Christofferson et moi-même avions une amie rencontrée au temps où nous faisions nos études de droit, membre de notre paroisse de Durham en Caroline du Nord. Son mari et elle formaient un jeune couple idéal avec de jeunes enfants. Elle était très intelligente, séduisante et possédait une personnalité qui irradiait. Tout le monde l'admirait et aimait être en sa présence. Cependant, environ 25 ans plus tard, et qu'elle était âgée d'une quarantaine d'années, elle fut frappée d'un cancer incurable de l'estomac qui s'est propagé au foie et aux poumons. Malgré le choc et la douleur qu'elle ressentait, tandis que sa vie s'essoufflait peu à peu, elle écrivit ces mots pleins de tendresse à sa famille et à ses amis qu'elle regrettait tant de devoir quitter. Le plan de Dieu est divin et se déroule exactement comme il l'a prévu. Étant donné que j'ai été choisi pour avoir cette épreuve, je sais que cela doit être pour quelque chose de meilleur et pour un bonheur plus grand. Je sens déjà les bénédictions spirituelles affluer et je sens que, juste avant la fin, je saurai comment être prête à rencontrer mon Sauveur. Son pouvoir est sur terre. Il n'y a aucune erreur. Les épreuves sont nombreuses et lourdes à porter. Chacun semble souffrir de ses épreuves. Regardez en direction du Seigneur et recevez son aide. Acceptez ce qui est à vous. Et la douleur vous sera enlevée et viendra la paix. Une jeune sœur avait décidé de faire une mission à plein temps. Après avoir terminé ses études et obtenu ses diplômes, suivi des stages de formation prestigieux et fait des études à domicile et à l'étranger. Elle avait développé la capacité de créer des liens et d'être proche des gens de presque toute croyance, opinion politique ou nationalité. Et elle s'inquiétait d'avoir à porter une plaque missionnaire toute la journée et tous les jours, car elle pensait que cela lui mettrait une étiquette et entraverait son habileté exceptionnelle à se faire des relations. À peine quelques semaines après son arrivée en mission, elle a écrit à sa famille pour lui faire part de cette expérience enrichissante. Sœur Lee et moi avons passé du baume sur les mains déformées par l'arthrite d'une vieille femme, l'une et l'autre assises à ses côtés, dans son salon. Elle n'a pas voulu écouter notre message, mais elle nous a laissé chanter. Elle a adoré nous entendre chanter. Merci à ma plaque missionnaire de m'avoir donné l'occasion de faire de telles expériences avec de parfaits étrangers. À travers ses souffrances, Joseph Smith, le prophète, a pris à perdre sa vie au service de son maître et ami. Il a déclaré, « Je me suis fait cette règle. Quand le Seigneur me commande, fais-le. » Je crois que nous aimerions tous atteindre ce degré de fidélité qu'avait notre frère Joseph. Malgré cela, il fut obligé de se languir pendant des mois, enfermé dans la prison de Liberty, au Missouri, souffrant physiquement, mais encore plus émotionnellement et spirituellement, de ne pouvoir aider sa femme bien-aimée, ses enfants, et les saints qui étaient alors persécutés et maltraités. Ses révélations et sa direction les avaient conduits au Missouri pour établir Sion. Et maintenant, ils étaient chassés de chez eux, en plein hiver. Malgré tout cela, et au cours de son séjour affreux dans cette prison, il rédigea une lettre inspirée, adressée à l'Église, d'une prose élégante et édifiante, dont certaines parties se trouvent dans les sections 121, 122 et 123 des Doctrines et Alliances, se terminant par ces mots. Faisons de bon gré tout ce qui est en notre pouvoir. Alors, nous pourrons nous tenir là avec la plus grande assurance pour voir le salut de Dieu et voir son bras se révéler. Bien entendu, le plus grand exemple de sauver sa vie en la perdant est celui-ci. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. En donnant sa vie, le Christ n'a pas sauvé seulement la sienne. Il a sauvé celle de chacun d'entre nous. Il a permis d'échanger notre vie mortelle limitée et quelque peu futile pour la vie éternelle. Le thème de la vie du Sauveur était « Je fais toujours ce qui est bien aux yeux du Père ». Je prie que vous puissiez en faire le thème de votre vie. Si vous le faites, vous sauverez votre vie. Mes chers jeunes amis, soyez disposés à lutter pour arriver à faire passer sa volonté en premier. Apprenez à vouloir ce qu'il veut. Confessez-le et reconnaissez-le dans chaque aspect de votre vie. N'ayez pas honte du Christ ou de son évangile. Et soyez prêts à abandonner des choses que vous aimez, des personnes que vous aimez, et même à donner votre propre vie pour lui. Mais pendant que vous vivez, que votre vie soit un don. Chargez-vous de sa croix chaque jour en étant pur et obéissant et en servant. Ce sont les engagements et les fruits de notre foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Heavenly Father, thank you for this. Nous te remercions pour cette soirée que nous avons eue pour écouter les paroles de ton serviteur. Nous te remercions pour le message qu'il nous a donné. Ce soir, nous te demandons de nous aider à appliquer ces enseignements dans notre vie pour mieux te suivre. Nous te demandons, tandis que nous retournons dans nos foyers, de nous bénir pour que nous roulions prudemment et aussi pour que nous nous souvenions de l'esprit que nous avons ressenti aujourd'hui, de façon à ce que nous le ressentions pendant la semaine. Nous te demandons toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.